Welcome to the debate. Aujourd'hui, on se penche sur une élection nationale assez fascinante et, disons, très révélatrice.
Le dissident. Fascinante, oui, c'est vraiment le mot.
Exactement. Imaginez un président sortant qui obtient, tenez-vous bien, 99,18% des voix.
Avec un taux de participation quasi total, le dissident. Et face à lui, ses deux seuls concurrents, Franck Habineza et Philippe Mpaimana, qui ne dépassent même pas 1% à eux deux.
C'est vertigineux.
Voilà. Pour ceux qui ont l'habitude des démocraties occidentales, un tel score déclenche immédiatement des accusations de fraude absolue. Mais au Rwanda, avec cette réélection de Paul Kagame, la mécanique exige une analyse beaucoup plus nuancée.
Totalement. Face à un chiffre pareil, la question centrale s'impose d'elle-même. S'agit-il d'un véritable plébiscite populaire pour un modèle de reconstruction post-génocide ou, à l'inverse, juste le symptôme d'un système politique complètement verrouillé? Alors, de mon côté, je suis convaincue que ce vote est un compromis assumé et très conscient de l'apport de la population.
Le dissident, un compromis, c'est-à-dire?
Eh bien, les électeurs agissent un peu comme les actionnaires d'une start-up. Ils valident le bilan extrêmement positif de leurs dirigeants pour garantir la stabilité, la croissance, et ils relèguent en fait le débat idéologique au second plan.
Je vois l'analogie de la start-up, mais je l'aborde sous un tout autre angle. Pour moi, ce système n'est pas une start-up. C'est plutôt une cocotte minute sans soupape de sécurité. Ce 99%, il ne révèle pas une véritable adhésion. C'est l'illusion d'un choix dans un environnement purgé de toute alternative viable.
Mais regardez tout de même les faits qui motivent ces fameux électeurs. Depuis les massacres de 1994, la transformation du pays est indéniable. La propreté, l'organisation de Kigali, ça frappe tout le monde.
Le dissident, c'est vrai, l'ordre est impressionnant. Et la croissance économique rassure les bailleurs de fonds. Le jour du vote, beaucoup de gens disaient simplement « il a sorti le pays du chaos, pourquoi on changerait ?»
Ce pacte de stabilité a même été institutionnalisé. La révision constitutionnelle de 2015, approuvée par référendum, lui ouvre théoriquement la voie jusqu'en 2034.
Le dissident. Oui, la sécurité intérieure saute aux yeux, je ne le conteste pas. Mais si on gratte un peu le vernis de cette vitrine institutionnelle, le mécanisme du pouvoir est tout autre.
Comment ça ?
Vous pensez aux institutions elles-mêmes ?
Exactement. Prenez le Parlement rwandais, par exemple. C'est l'un des plus féminisés au monde. C'est un outil démocratique très progressiste sur le papier. Mais, paradoxalement, cet outil sert à renforcer un consensus autoritaire. C'est intriguant de le formuler comme ça.
La Constitution garantit ses quotas, ce qui devrait mécaniquement ouvrir le débat, non ?
Le dissident.
Elle garantit les sièges, oui. Mais dans la pratique ?
C'est le parti au pouvoir qui valide minutieusement les candidatures en amont. Le débat parlementaire est structurellement circonscrit par les limites fixées par l'exécutif. Il n'y a pas de vrai contre-pouvoir.
Mais il y a quand même des voix dissidentes qui essaient d'exister.
Le dissident.
Qui essaye, oui. Mais quand une opposition tente d'émerger, le système se verrouille immédiatement. Des figures qui représentaient une vraie alternative, comme Victoire Ingabire ou l'ancienne candidate Diane Rigara, ont été purement et simplement écartées du scrutin.
Et toujours pour des motifs administratifs ou judiciaires. La dissidence, en fait, mène à la prison ou à l'exil. Ce 99% mesure l'absence de compétition, pas la satisfaction. Je vous arrête sur ce point. Je ne nie pas la fermeté du pouvoir, c'est une réalité. Mais il faut comprendre le traumatisme profond de la société rwandaise.
Le dissident.
Bien sûr, le génocide est une cicatrice béante.
Exactement.
Et l'exécutif assume ce verrouillage comme la condition absolue, la condition sine qua non de la reconstruction. L'absence de friction politique interne, qui pourrait rouvrir des blessures et dégénérer en chaos, permet justement de maintenir ce sanctuaire intérieur pacifié. C'est un compromis de survie.
Le dissident.
Un sanctuaire peut-être, mais cette sécurité absolue à l'intérieur de la maison rwandaise a un coût régional très lourd.
Vous voulez dire au-delà des frontières ?
Oui. Pour maintenir ce sanctuaire de manière hermétique, Kigali a besoin d'une zone tampon à l'extérieur. Et c'est là qu'on voit une contradiction flagrante. Le pays se présente comme un modèle de paix, mais il est accusé de soutenir activement la rébellion du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo, ce qui déstabilise toute la région voisine. C'est une mécanique fascinante, en effet. Pour garantir cette fameuse stabilité intérieure inviolable, la stratégie consisterait donc à exporter l'instabilité chez le voisin.
Le dissident.
C'est tout à fait ça. Même si le gouvernement rwandais dément ce soutien au M23, c'est vrai que cela empoisonne diplomatiquement la région et ça montre les limites d'un modèle de développement pensé en vase clos.
Exactement. C'est pour ça que je maintiens que cette élection est une illusion.
Avec un nouveau mandat de 5 ans qui commence et aucun successeur visible à l'horizon 2034, l'absence de toute alternative pose vraiment la question de la pérennité de ce modèle quand son dirigeant historique ne sera plus là.
Nous nous accordons donc sur, disons, l'impressionnante relance économique du Rwanda et le contrôle chirurgical de l'exécutif sur les institutions.
Oui, ces faits sont indéniables de part et d'autre, mais l'interprétation de ce score écrasant de 99,18% reste notre grand point de divergence.
Un compromis salvateur pour la stabilité à tout prix, selon moi.
Et le symptôme d'un système politique sans respiration, selon moi.
Le modèle rwandais reste un paradoxe complexe.
Tout à fait. Il reste indéniablement beaucoup à explorer sur les dynamiques de cette région et sur le prix réel de ce miracle post-génocide.